mal au chercheur oriental. J'ai réussi totalement cette équipe.
Moi, c'est l'équipe de combattants au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs. Le nouveau ministre de la fonction publique a affirmé que près de 80% des fonctionnaires et agents de l'État dans la catégorie des postes et des commandements sont éligibles à la retraite. Pour le ministre, le processus de la réforme de l'administration publique est irréversible et nécessaire pour améliorer la qualité des services publics en RDC. Pour matérialiser cette réforme, le gouvernement vient de doter l'administration publique d'un bâtiment qui abritera la caisse de la retraite. Entre-temps, certains observateurs estiment que ce processus ne peut réussir qu'avec l'adoption du projet de loi portant statut des fonctionnaires déposé au Parlement. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise à nom de part Dieudonné Nyangasa. Julie Feza assure la réalisation. Jérôme Ngembo est à la coordination. Et Kiro et la Mégie devant ses micros pour la présentation sous la supervision de Martin Sebujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Pierre et la Mèche.
Le souci, c'est de voir la RDC dotée d'une administration publique performante et capable de rendre service et surtout de travailler pour le développement du pays. C'est dans ces cadres que, depuis plusieurs années, le processus de réforme de l'administration publique a été lancé. Plusieurs invités du ministère de la fonction publique sont passés dans cette émission pour faire le point sur l'évolution de ces processus. Et aujourd'hui, nous allons d'un moment à l'autre recevoir dans ces studios M. Pascal Issoumbicho, ministre de la fonction publique, avec qui nous allons faire le point sur ce processus, les innovations et les difficultés rencontrées. Mais votre point de vue est aussi le bienvenu dans ce magazine d'échange citoyen au 081-890-6315. Si vous avez besoin de mettre un point de vue, un témoignage par rapport au processus de réforme de l'administration publique, ce qui doit être fait pour les réussir, vous êtes le bienvenu. Nous avons ici à Kinshasa Félicien qui vient de nous se joindre à nous dans cet échange. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à son excellence et votre invité et à tous les auditeurs de Radio
Capitale. Bien, Pierrot, Félicien, on vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait pour réussir le processus de réforme de l'administration publique?
Merci, Pierrot. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans ce projet de loi qui est à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il y a des bonnes choses qui ont été prévues. Je suis déjà aussi content d'apprendre qu'il y a un bâtiment qui est déjà prévu pour abriter la caisse des retraites. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu dans le budget 2016 pour cette caisse des retraites. Je pense aussi que on ne va pas inventer la roue. Si on veut faire une vraie réforme de la fonction publique, c'est pas changer des hommes, c'est pas retraiter les gens. Il est vrai aussi que on ne peut pas rester en fonction avec 80 ans et 100 ans et toujours en train de travailler. Le corps a ses limites. Mais moi, je pense que on doit se chercher à améliorer d'abord les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Et si on donne les moyens qu'il faut, les salaires qu'il faut, les avantages qu'il faut aux travailleurs, la retraite ne sera plus comme quelque chose, comme une punition, parce que les gens ici chez nous, quand ils veulent aller en retraite, ils sentent comme s'ils sont punis parce que c'est la mort. Et il faudra que nous arrivions à réclamer la retraite, à réduire les années de départ en retraite, comme on le fait partout en Europe. Vous voyez, les Français, ils veulent même descendre jusqu'à 50 ans. Parce qu'il faut avoir le temps aussi de jouir de ta retraite quand on a travaillé durement. Et après, maintenant, on doit se reposer, on doit jouer de ce qu'on a produit. Mais ici, chez nous, c'est l'inverse. Mais quand on dit on va remplacer les vieux qui vont aller arrêter par les jeunes, mais ces jeunes-là aussi, ils ont besoin d'avoir de bonnes conditions de vie, ils ont besoin de vivre normalement quand ils travaillent. Et ils doivent aller aussi à la retraite des jours dans de bonnes conditions. Moi, je crois que notre gouvernement ou ceux qui nous dirigent doivent être sérieux et ils doivent savoir qu'ils doivent veiller à la bonne répartition du revenu national. C'est pas normal qu'on paye un fonctionnaire, quelqu'un qui a fait aussi les mêmes études que le ministre, que le député, lui on lui paye 200 dollars et on trouve qu'il peut résoudre tout avec ces 200 dollars, alors que le ministre ou le député est à 15 000, 20 000. Pourquoi cet égoïsme, pourquoi cette disparité? Qu'on tienne compte de la vie de chacun et qu'on ne voit pas que tout le monde puisse aller toujours en politique pour vivre. Donc moi je pense que la retraite, la bonne réforme passe par les changements de comportement. Et les anti-valeurs, on les combattra qu'en donnant des conditions de vie meilleures à tout le monde. Parce que vous devez savoir qu'il n'est pas facile d'appliquer des vertus quand on n'a pas un minimum vital pour un minimum de mieux-être. Donc l'homme sera toujours tenté, il sera toujours corrompu. Et c'est ce qui est à la base de la corruption, de la conclusion dans la fonction publique.
Merci. Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que le problème, c'est pas seulement le changer des hommes, envoyer les autres en retraite. La vraie réforme doit passer par l'amélioration des conditions du travail de chacun, offrir des conditions de vie meilleures à tout le monde pour que la retraite demain ne soit plus considérée par les fonctionnaires comme une punition, mais aussi assurer à cette jeunesse qui pourra être recrutée demain pour, dans la fonction publique, les conditions de travail meilleures qui puissent leur permettre aussi de se réjouir quand passera le temps de prendre la retraite. Merci beaucoup, Félicien. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous restons, nous allons à Bounia, dans la province de l'Ituri, avec Sylvain. Sylvain, merci de vous être joint à nous. Vous avez suivi cette problématique et comment on doit aller sur les processus de réforme de l'administration publique, Sylvain. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je voudrais, au même moment, saluer tous ces travailleurs congolais qui aujourd'hui ont reçu l'âge de la retraite et de leur assurer que le moment viendra où ils doivent pratiquement prendre congé et jouir de tout ce qu'ils ont fait pour la République. Il a été dit, je voudrais d'abord faire mienne les déclarations qu'a fait tout de suite l'auditeur qui m'a précédé, selon laquelle nous n'avons pas une politique de la gouvernance responsable du personnel en pratique dans notre pays. Et moi, j'ajoute que au Congo, nous avons un problème de régénération des personnels de l'État. Pourquoi? Vous savez, dans des pays qui se respectent, il y a un service à titrer pour essayer d'évaluer, n'est-ce pas, les taux d'avancement de l'âge des personnels pour permettre à ce qu'il y ait régénération ou remplacement de même partie d'une main-d'œuvre capable de pouvoir booster l'administration publique de l'État et cela dans tous les secteurs. Mais qu'est-ce que je dis? Il faut d'abord retenir une chose que dans ce pays, depuis 1960, à nos jours, la RDC n'est pas dotée d'une politique responsable en matière de gouvernance rationnelle de son personnel, c'est-à-dire du personnel de l'État. Et ça pose un problème. Vous savez, aujourd'hui, dans des pays qui se respectent, et que j'aimerais faire une comparaison, on étudie pour être utile à l'État congolais, disons à un État. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais étudient? Aujourd'hui, il y a la question de l'inadéquation entre l'acquis personnel, c'est-à-dire le personnel qui a déjà reçu l'âge de la retraite, et le personnel en âge de la recherche d'emploi, ça veut dire la nouvelle main d'œuvre. Pourquoi? Puisque déjà dès la formation, il se pose un problème d'intégration. Ça veut dire on forme les gens pourquoi? Et on forme combien? Et quelles sont les unités de formation? Ça veut dire en termes d'école, d'université, des études techniques. Tu dois donner des choses pourquoi? Disons des médecins pourquoi? Alors, quel est le nombre d'emplois au Congo? Voilà un peu un ensemble de problématiques, messieurs les journalistes, à laquelle nous n'avons jamais répondu de 60 à nos jours. Et donc, il est tout à fait normal d'arriver à un moment donné, on soit incapable de changer ou de régénérer un personnel. Et moi, je pense que d'une manière massive, puisque je ne voudrais pas prendre assez de temps, puisque la question semble tellement utile que ça crée même un problème de conflit entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Ça, il faut le savoir dans les milieux du personnel, dans les milieux du travail ou de l'administration publique. Donc, je ne voudrais pas ici on donne des raisons à ce personnel, disons à ce personnel qui a déjà reçu la retraite, et aussi au personnel qui doit entrer. Donc l'État congolais doit aujourd'hui recréer son secteur d'emploi, recréer son association publique, mais aussi recréer les institutions de formation des cadres. Et cela pourra permettre à ce qu'il y ait adéquation entre les deux éléments et les problèmes pourraient être résolus.
Merci. Sylvain, vous estimez qu'il y a un problème aujourd'hui qui s'impose dans la réforme de l'administration publique, c'est l'absence d'une gouvernance rationnelle de fonctionnaires, vous l'avez dit, c'est depuis 1960, selon vous, que la RDC n'était pas dotée d'une politique rationnelle dans la gestion des fonctionnaires. Ce qui fait aujourd'hui, on a une inadéquation entre ceux qui sont formés et les besoins réels d'absorption des fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Toutes ces questions doivent être résolues d'une manière profonde. Et c'est de cette façon-là qu'on peut arriver aujourd'hui à régénérer, la fonction publique. Mais vous avez aussi estimé qu'il serait mieux comme ailleurs d'avoir un service attitré qui surveille l'évolution de l'avancement de l'âge du cadre des fonctionnaires, et comme ça on pourrait avoir des données chiffrées réelles qui puissent permettre de pouvoir réformer l'administration en adaptant ceux qui sont formés, les cadres qui sont formés et ceux qui doivent être recrutés pour remplacer et les autres. C'est de cette façon-là compter réussir ces domaines. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir appelé de Bounia dans la province de l'Ituri. Je vous informe que tout à l'heure, on aura notre invité, le ministre de la fonction publique, avec qui nous allons essayer de résoudre toutes ces questions d'un moment à l'autre. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à l'invité qui est en route. Félicitations à tout le monde qui a parlé.
On vous écoute.
Oui, moi je voudrais qu'on nous dise quel est le problème. Jusque-là, on ne dit rien. Deuxièmement, pourquoi battre le tambour lorsqu'il faut mettre les gens à la retraite? Je crois que ces gens sont entrés à la fonction publique avec douceur. Ils doivent partir en douceur avec honneur. Lorsque le gouvernement dit qu'il réalise 9 milliards de dollars de budget, qui reporte ça? Ce n'est pas des fonctionnaires de l'État? Lorsqu'il manque l'ordinateur, est-ce que c'est à lui d'amener l'ordinateur dans le bureau? Lorsqu'il manque des chaises et des tables, est-ce que c'est à lui d'amener ça? Ailleurs, on parle des seniors dans les services. Chez nous, on les vilipende, on crache sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel mal ont-ils fait pour avoir l'âge? Faut-il être, je crois, enfant pour mourir enfant et mourir avec honneur? C'est ça le grand problème. Je crois que nous manquons d'éthique envers le respect envers les aînés. Nous manquons ça. Un pays qui ne respecte pas les aînés n'a pas de mémoire. C'est ainsi qu'on nous raconte des histoires dans les oreilles. On nous dit qu'il peut vivre avec un Congolais, alors qu'il est du village de Kipenga en Angola, du village de mon beau-frère. C'est ça. Donc, moi, je crois que le pays n'a pas de respect pour les aînés. N'en a pas. Mon père est parti à la retraite. Il est mort, il n'a pas eu l'argent de la retraite. C'est ça le Congo. Le Congo ne respecte pas ses fonctionnaires. Le Congo, surtout les descendants de l'Afdel, viennent avec une politique de discrimination. Et c'est comme ça qu'on peut sortir. On veut dire que tout est mauvais. Même le corps maréchal, mon bout de c'est parfait. Même le palais du peuple, alors. Moi, je trouve que c'est une politique d'apartheid avec un jeu envers les aînés. Ce n'est pas correct, ça. Ce n'est pas correct. Alors, moi, je crois aller à la retraite ne devait pas se faire avec tambour battant comme ça, vilipendant les gens. Alors, et puis, la fonction publique, c'est quoi? C'est à partir du chef de rue. Dans quelles conditions nos chefs de rue sont en train de travailler? Ont-ils des bureaux? Dans quelles conditions les chefs de quartier? Je suis à côté d'un quartier ici, en visite. Hier, j'étais en visite là-bas. Le quartier de la famille fonctionne dans la partie de fouille. Dans un bureau de 3 mètres sur 4 mètres. J'ai demandé à ces gens comment vous travaillez. C'est encore la fonction publique, non? Qu'est-ce qu'ils ont arrangé? C'est ça le problème. C'est bien de dire réforme, réforme, pointer, harceler les gens, ça ce n'est plus. Ça, c'est un harcèlement. Pratiquement d'apartheid sur des gens, au lieu de tomber sur ce qui est intéressant. Les gens sont là dans le mandat de Cécile, les élections de Pastatine, les concasses aussi dessus, au lieu de s'occuper réellement des gens. Moi, je trouve que cette réforme n'est qu'une injure à l'endroit des aînés, comme la République ne respecte pas les aînés. On croit qu'on est né jeune, on mourra jeune, mais ce n'est pas normal. La mémoire du pays se trouve au niveau de ceux qui ont les cheveux blancs. Si on les extermine, alors un peuple sans mémoire, sans histoire, n'est qu'un esclave dans la
suite. Docteur Richard, merci beaucoup. Vous avez dit au début de votre intervention, vous l'avez dit bien, que jusqu'alors on n'a pas défini le vrai problème. Vous dites où est le vrai problème et vous estimez que la procédure utilisée dans la réforme en ce qui concerne la mise en retraite de fonctionnaires ne fait pas respect à ces fonctionnaires, ça ne peut pas se faire avec tambour battant. Mais vous avez rejoint presque Félicien tout à l'heure qui insistait sur l'amélioration des conditions de travail globales, n'est-ce pas?
Ceux
qui sont déjà engagés, et c'est de cette façon-là qu'on peut arriver à résoudre la question de la valorisation de ceux qui ont travaillé, et comme ça on pourra savoir de quelle manière on doit leur accorder la retraite. Merci docteur Richard. Olivier, vous êtes à Kikwit dans la province du Kwilu. Bonjour Olivier, bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je crois que vraiment c'est triste à dire, mais le seul mot réforme, ce n'est pas une garantie d'une amélioration du bien-être du peuple congolais. Réforme, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des préalables. La façon dont nous sommes gouvernés nous fait peur. Et quand on parle de réforme, surtout avec beaucoup de bruit comme c'est le cas, j'ai l'impression que, comme nous l'avions dit il y a quelques temps, on veut se dédouaner. Ce n'est pas normal. Alors, je dirais qu'il faut des préalables. Nous devons savoir gérer le personnel. Dans toutes les entreprises, ça c'est le premier grand problème, la gestion du personnel. Alors, dans notre pays, on a l'impression que c'est quelque chose, ce n'est pas le souci au fait des gouvernants. Alors, il y a deux choses. On va prendre 4 millions, enfin la majorité des fonctionnaires, on les met à la retraite, et nous avons les jeunes qui vont arriver. Mais vous savez que nous avons un problème aujourd'hui, Pierrot, c'est que quand je parle de la qualité de l'enseignement que nous dispensons aujourd'hui, je me dis, mais en fait, nous pouvons faire partir tous les vieux, les remplacer par des jeunes très dynamiques, mais il nous faudrait d'abord améliorer aussi la qualité d'enseignement. Parce que nous risquons de faire la réforme, disons, les jeunes ne se rendent pas plaisir. Maintenant, je trouve devant une difficulté. Le jeune connaissait le cosinus, mais vous allez amener un jeune ingénieur qui ne sait plus ce qu'on appelle le cosinus. C'est déjà un grand problème. Alors, je pense que le simple fait de dire réforme, le gouvernement ou les gouvernements ne doivent pas penser que c'est ça qui va nous calmer. Moi, ce qui va me calmer, moi personnellement, c'est la gouvernance. Et comme je l'ai dit mon prédécesseur, les choses ne doivent pas se faire dans un bruit infernal. Non, le travail se fait avec calme, mais on voit les résultats. Et c'est ça qui va faire, qui va donner confiance à la population. Mais tambour battant, comme venait de dire mon prédécesseur, vraiment, je suis désolé, ça c'est la meilleure façon pour distraire la population. Donc voilà ce que je peux dire, mais je pense que nous sommes loin de la bonne voie.
Merci beaucoup, Olivier. Vous estimez que la réforme ne peut réussir que quand il y a des préalables qui doivent être respectés, la gestion rationnelle du personnel, de quelle manière on doit recruter et de quelle manière on doit envoyer les autres en retraite. Et vous avez insisté beaucoup sur l'amélioration de la gouvernance de fonctionnaires. Mais quelque part, vous avez dit que la réussite de la réforme doit passer dans un processus qui se fait dans le calme. Vous estimez que la réforme, il y a beaucoup de bruit. Docteur Richard disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de tambours autour de la réforme. Merci beaucoup, Olivier. 081-890-6315, le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines. Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapire Soi et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radioofaki.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs.
Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons associé à cet échange M. Pascal Issoumbicho, ministre de la fonction publique, qui est avec nous dans ces studios. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue dans les studios de Radio Capi.
Bonjour Pierrot et merci de l'invitation.
Nous avons introduit cette émission par votre déclaration d'ailleurs. Vous l'aviez bien dit que à ces jours, près de 80% des fonctionnaires et agents de l'État dans la catégorie de postes de commandement sont éligibles à la retraite. Et vous l'avez dit d'ailleurs, que le processus de la réforme de l'administration publique est irréversible et cela est nécessaire. Tout le monde est d'accord que cela est nécessaire. Mais est-ce qu'on peut avoir en grande ligne où en sommes-nous aujourd'hui avec ces processus? On sait que beaucoup de choses ont été amorcées. Aujourd'hui, on est à quel niveau?
Ben, on est suffisamment avancé, peut-être pas suffisant pour satisfaire les attentes de la population que nous comprenons très très bien, hein, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, cela montre que tout le monde veut que les choses soient réformées. Mais tout avant de répondre à votre question, je voudrais revenir au pourquoi même de la réforme. Parce que si on ne se met pas d'accord sur le pourquoi, c'est difficile de continuer. Eh bien, la vision de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, et de voir la RDC, notre pays, devenir émergent à l'horizon 2030. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Pour y arriver, le gouvernement a eu un programme d'action du gouvernement, et concernant la fonction publique, il y a évidemment la réforme de l'administration publique. Pourquoi la réforme de l'administration publique? Parce que c'est elle qui est la colonne vertébrale de tout l'organisme gouvernement. Mmh. C'est au cœur de la machine gouvernementale. Donc, il faut à tout prix que la RDC devienne émergente à l'horizon 2030. Et il faut avoir une administration publique capable d'accompagner le gouvernement dans ce processus, capable d'aider le gouvernement à atteindre la vision du chef de l'État. Et maintenant, le constat, comme vous venez de le dire, lorsque nous avons une administration qui est née à la fondation du Congo, notre pays, qui a eu à grandir, qui a été très jeune, qui a été très, très performante, et qui a atteint l'âge adulte. Et maintenant, nous arrivons au niveau où la machine a vieilli. C'est tout à fait normal. Mmh. Alors, il faut à tout prix redonner du jus, de l'énergie dans cette administration. Alors vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait. Déjà le cadre lui-même. Vous voyez, il faut définir le cadre. Pourquoi? Parce que l'administration était régie par des textes et il faut de nouveaux textes qui permettent à cette administration de jouer son rôle. Vous voyez, et tout, vous pouvez me croire, hein, le travail des textes, le travail des révisions de la loi, du cadre, ce n'est pas un travail facile. Or là, nous sommes suffisamment avancés. Il y a du travail sur le terrain. Par exemple, le recensement. Lorsqu'on parle de l'amélioration de conditions salariales des fonctionnaires de l'État, mais ils sont combien? Nous sommes combien, nous, agents et fonctionnaires de l'État? Lorsqu'on dit qu'il y a détournement des salaires, mais pourquoi il y a détournement? Parce que d'abord, un, nous ne maîtrisons pas les effectifs, et deux, les données ne sont pas centralisées. Or, le travail de recensement a commencé et en tout cas, dans les mois à venir, nous aurons ce que nous appelons un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. Mm-hmm. Ça signifie que nous avons exactement combien d'agents et fonctionnaires de l'État, de quelle catégorie, ce qui nous permettra de planifier même la retraite et le recrutement. Tant que nous n'avons pas toutes ces données, comment pouvons-nous améliorer les conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État? Ça fait mal parce qu'on attend. Par exemple, aujourd'hui, les gens me disent, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous mécaniser? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régulariser notre situation? Mais nous allons régulariser dans quel cadre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a déjà beaucoup d'avancées. Et lorsque nous aurons terminé le travail de vérification et de mise en commun de toutes les données, y compris les données biométriques, alors ce sera le point de départ et nous saurons planifier même l'enveloppe salariale. Mais attention, déjà l'enveloppe salariale pour payer les agents fonctionnels de l'État bouffe au moins 40% du budget de l'État. Mm-hmm. Ce qui signifie que c'est déjà beaucoup comparé au budget de l'État. Mais ce n'est pas suffisant lorsque ça arrive au niveau de l'agent et fonctionnaire de l'État. D'où la question de savoir comment 40% ne peuvent pas permettre d'améliorer les conditions. Vous voyez ? Donc il y a déjà beaucoup qui a été fait.
Mais nous avons eu d'ailleurs plusieurs émissions avant que vous puissiez entrer en fonction autour de ces processus. On sait aussi qu'il n'a pas épousé vraiment l'idée des syndicalistes en ce qui concernait les recrutements, parce qu'il y avait déjà des mécanismes mis en place par votre prédécesseur pour procéder au remplacement des cadres et des directions. Il fallait améliorer. On est resté à un certain moment sur la soif parce que des questions n'ont pas été répondues ou les fonctionnaires estimés qui n'ont pas été assez associés à ces procédures. Et concrètement, aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai demandé où en sommes-nous avec tout ce qui a été déjà amorcé, mais aussi ce qui n'épousait pas le point de vue des agents et fonctionnaires eux-mêmes.
Ah ben là, vous devenez beaucoup plus clair, c'est vrai. Il y a eu des problèmes, les syndicalistes ont dit qu'ils n'ont pas été associés. Eh bien, lorsque j'ai pris mes fonctions, je ne sais pas, 24 heures après, je suis allé vers les syndicalistes. Je pense que vous l'avez suivi. Parce qu'effectivement, j'ai compris qu'il n'y a pas moyen d'avoir une administration réformée sans impliquer tous les partenaires. Et les syndicalistes qui représentent les agents et fonctionnaires de l'État sont les tout premiers partenaires. J'ai été vers les syndicalistes avant d'aller vers les autres partenaires qui soutiennent notre administration. Et tenez bien, contrairement à ce que vous venez de dire, même les syndicalistes disent qu'ils sont pour la réforme. Le problème, c'était quoi? C'est un problème de communication. Si nous ne communiquons pas comme nous le faisons maintenant, en entrant ici, il y a des compatriotes qui ont parlé des tambours battants. Si nous ne battons pas ces tambours pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde pose des questions, pour qu'il y ait échange, pour qu'il y ait débat et qu'à la fin, tout le monde comprenne, mais nous ne pouvons pas réussir. Ça signifie que, dès le départ, la politique du ministère de la fonction publique depuis mon avènement, c'est de dire, allons vers tous les partenaires pour leur faire comprendre, pour qu'ils comprennent l'objet même de la réforme. Je viens de dire que c'est irréversible. Pourquoi irréversible? Parce que sinon, c'est l'État qui va tomber. Si aujourd'hui, nous ne revoyons pas notre administration, comment nous allons survivre demain? Si nous n'avons pas une administration compétitive, nous n'allons pas survivre demain. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je ne connais pas encore exactement le jour, les syndicalistes eux-mêmes vont entamer une vaste campagne de sensibilisation des syndicalistes. C'est-à-dire la sensibilisation des syndicalistes par les syndicalistes. Vous comprenez ça? Et ça, c'est très important. Et cela doit se faire pour les différentes couches et différents partenaires, comme je le disais.
Nous avons Joseph qui nous appelle de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, héritier Etitia Kinshasa, professeur Ignace Ndala à Kolezi dans la province des Lualaba, 081-890-75, le numéro d'appel si vous avez besoin d'intervenir en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Joseph, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs et les précisions avec notre invité, monsieur le ministre. Quel est votre point de vue par rapport au processus de réforme de l'administration publique?
Merci beaucoup, Pierrot, pour la parole. En fait, je voulais juste dire ceci. Lorsque on pense qu'il y aura amélioration de notre du secteur public en remplaçant les vieux par les jeunes et que ces jeunes-là soient toujours mis dans les mêmes conditions que ceux qui étaient avant étaient en train de fonctionner, je ne crois pas que ce recrutement-là aura atteint son objectif. Comme l'a dit l'intervenant qui a introduit l'émission de l'île et de Félicien, je crois que pour qu'il y ait vraiment une bonne réforme, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'État doivent être mises, ce sont ces conditions-là qui doivent être réformées. Certes, on est jeune, mais si je dois remplacer quelqu'un et que les conditions de travail sont les mêmes, je suis jeune, je ne suis pas motivé, mon salaire n'est pas compétitive, je ne crois pas comment je peux être motivé à donner un travail de qualité. Donc, tout dépend de la manière ou des conditions dans lesquelles je suis employé, dans lesquelles je suis mis. Si les conditions elles sont certes améliorées, c'est à ce moment-là que vraiment on verra le fruit que produira le secteur public. Mais tant que les conditions de cet employé-là ne seront pas améliorées, en fait, monsieur le ministre, il ne s'attend pas à ce que, qu'il y ait vraiment une réforme comme il est en train de l'entendre.
Merci Joseph. Pour vous, vous pensez que la vraie réforme, c'est d'abord l'amélioration des conditions de travail de ceux qui sont déjà là, y compris aussi ceux qui vont être recrutés demain. Si ces conditions ne sont pas améliorées, ça sera difficile de pouvoir réussir la réforme. Merci Joseph pour votre point de vue. Héritier, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Héritier, vous êtes avec nous, bonjour. Il y a des petits soucis des lignes, on a perdu Héritier. Nous allons à Colusi dans la province de Lualaba. Professeur Ignace Ndala, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je salue son excellence, monsieur le ministre. Et permettez-moi de placer un petit mot pour présenter les condoléances à la famille de la radio communautaire de Colusi qui a perdu le rédacteur en chef. Je m'en vais tout droit et je pense qu'il y a deux aspects que l'on doit considérer. Le premier aspect, c'est qu'il est vrai qu'il y a nécessité de renouveler la force employée dans la fonction publique. Mais ici, il faut se dire, en deuxième lieu, que c'est cette force qui a vieilli, que l'on doit aujourd'hui remplacer, a été vieillie par l'État dans sa manière de gérer les affaires. Ces fonctionnaires ont investi toute l'énergie de leur jeunesse. Si aujourd'hui on parle des exploits la RDC dans tel ou tel autre domaine. Ce que nous voyons aujourd'hui, infrastructure, tout ce qu'on peut vanter à longueur de journée à l'actif de notre pays, cela a été fait par les efforts de ces pauvres fonctionnaires malgré les traitements qu'ils étaient en train de recevoir. Chaque jour, ils ont espéré, ils ont vécu, et nous sommes les fils de ces fonctionnaires-là. Nous sommes en train aussi d'emboîter les pas, de passer pratiquement sur le même tunnel qu'ont été nos parents. C'est-à-dire qu'ils ont espéré le lendemain meilleur, jusqu'à ce qu'aujourd'hui ils ont vieilli. Le gouvernement a eu des difficultés pour retraiter les gens quand il le fallait, au point qu'aujourd'hui ils ont vieilli parce qu'il n'y avait pas de moyens, il y a eu toujours de promesses. Alors, je voudrais ici dire que l'État doit faire attention quand on parle de la retraite, parce qu'on a l'impression maintenant que retraiter commence à signifier chez nous renvoyer. Ces gens-là sont obligés de partir par la force des choses. Et la grande question, c'est celle de savoir comment ils sont en train de partir. Moi, je pense que, ayant servi loyalement ce pays, ils devaient partir pour se retrouver au repos, bénéficiant de dividendes de leurs services rendus. Mais ici, je voudrais terminer par relever un aspect que son excellence venait de soulever. Il y a la problématique du syndicat en RDC. Quel syndicat dont le ministre est en train de nous parler? Est-ce que ce sont ces amis qui sont déjà, qui créent des clubs, qui sont pratiquement sous la coupe du gouvernement, qui vont chercher à convaincre les autres, quelle que soit la situation dans laquelle ils se retrouvent? Je pense que on devrait réfléchir deux fois sur la fameuse caisse de retraite. Nous sommes en train de regarder, d'attendre avec beaucoup d'espoir que cette caisse va vraiment permettre à ceux qui ont rendu la RDC au stade où elle est, à partir dans la paix et se reposer. Voilà peut-être ce que je voudrais dire.
Merci beaucoup, professeur Ignace. On revient à vous, monsieur le ministre. Vous avez tout à l'heure évoqué la question des textes, la question de l'identification. Il y a des auditeurs qui se sont testés. Peut-être que vous allez combiner les réponses avant qu'on écoute d'autres auditeurs qui sont sur les antennes. Il y a la question de la caisse de la retraite qui vient d'être posée. Et concrètement, quand vous avez évoqué tout à l'heure les textes et les cadres juridiques, ça veut dire quoi aujourd'hui? Y a-t-il un projet, des lois, une proposition, un texte sur lequel on discute qui va améliorer la gestion des fonctionnaires Mais quand on regarde le nombre d'années que le processus de gratification a pris, ça fait quand même du temps. On revient toujours. On n'a pas maîtrisé les effectifs. Il y a les gratifications biométriques, ça prend vraiment le temps. Et des fois, les gens risquent de croire que tellement qu'on promet que c'est pour bientôt et qu'on ne parvient pas toujours à avoir les chiffres concrets, l'ensemble du processus risque même d'être mis en doute hein, quand on écoute des fois le scepticisme de certains auditeurs.
Merci beaucoup, Pierrot. Encore une fois, merci à tous les compatriotes qui venaient de poser des questions. Merci au prof Ignace, merci à Joseph, merci à tout le monde. En tout cas, leurs préoccupations sont fondées. Il faut bien le comprendre. Et nous sommes dans un processus, je dirais, dans une sorte de cercle vicieux. Et quand on est dans un cercle vicieux, à un moment donné, il faut tout simplement casser. Il faut en sortir. Sinon, on va continuer à tourner à rond. Vous allez dire que le processus a pris beaucoup de temps. Mais pourquoi il a pris beaucoup de temps? Parce que les hommes, n'est-ce pas, qui pilotent le processus, voilà, on fait en sorte que ça prenne beaucoup de temps. Et nous revenons à cette administration, parce que c'est cette même administration qui fait ce travail. Nous sommes pris à notre propre piège. Et le professeur Ignace l'a bien dit, ses aînés n'ont pas du tout démérité. Ils ont tout donné dans des conditions très difficiles. Malheureusement, le résultat est là. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans le temps, qu'est-ce qu'on disait à un jeune garçon mal éduqué? Vous savez, Pierrot, ce qu'on disait? Ben, vous êtes trop jeune, vous ne savez pas ça. On disait, on va l'envoyer dans l'armée. N'est-ce pas? Et on l'a fait. C'est-à-dire, tout ce qui était peut-être pas intégré dans la société, il fallait qu'ils intègrent l'armée. Le résultat, nous le connaissons. N'est-ce pas? Et on s'est retrouvé avec une administration où le recrutement n'obéissait à aucun critère objectif. Je deviens ministre, je prends tout mon clan, je mets dans l'administration publique. Le résultat, il est là. Vous voyez, ça c'est le passé, c'est ce qui a été fait. Les gens qui ont été recrutés dans des conditions que nous connaissons, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, il y a en tout cas des gens qui ont mérité, mais la grande partie, nous les connaissons, on conduit l'administration publique à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il faut en sortir. Et si nous ne le faisons pas maintenant, ça sera tard. D'ailleurs, c'est déjà tard. Vous me comprenez. Mais maintenant, comment en sortir? Je vais d'abord parler de la fameuse caisse de la retraite.
Mmh.
Et le professeur venait de dire que la retraite, aujourd'hui retraitée, est considérée comme renvoyée. Mais c'est à tort, effectivement, et c'est pour cela que je vous ai remercié pour cette émission. Il faut que ça soit clair une fois pour toutes. Lorsque nous disons que nous allons retraiter, ça ne signifie pas que nous allons renvoyer les gens. Non, nous allons le faire progressivement en considérant les critères et bien entendu en fonction des quelques moyens dont l'État dispose. Mais l'État ne disposant pas de beaucoup de moyens, il faut mettre en place cette fameuse caisse. Est-ce que vous savez que nos aînés qui ont travaillé pendant longtemps, même nous, même moi je suis fonctionnaire de l'État, est-ce que vous savez que nous ne cotisons pas? Ça signifie que nous travaillons sans cotiser et nous attendons que l'État nous donne de bonnes conditions à la retraite. Ça ne se fait nulle part au monde. Vous me suivez? C'est pendant qu'on travaille que l'on cotise pour la retraite. Nous avons été dans un système octroyé et nous voulons passer dans un système contributif. Pour y aller, il faut revoir les textes. Vous voyez,
l'intervention de la loi, oui.
Voilà, et exact. C'est vers ça que nous allons. Et cette caisse de la retraite va avoir les cotisations, mais en même temps la contribution de l'État. Mais qui va cotiser aujourd'hui? Ce sont les jeunes, n'est-ce pas? Parce que les aînés ont déjà tout donné. Et je suis d'accord avec lui. C'est des gens qu'il faut féliciter. Je proposerai même un jour que le gouvernement construise un monument pour le fonctionnaire inconnu, comme on le fait pour le soldat inconnu, en cas de guerre. Parce que ces gens ont tout donné. D'où la question. Et il y a notre frère Joseph qui a dit, lorsque vous recrutez les jeunes, vous les mettez dans les mêmes conditions.
Mmh.
Effectivement, le gouvernement fait tout pour ne pas les mettre dans les mêmes conditions. D'abord, le recrutement ne se fait plus de la même manière. Lorsque nous recrutons aujourd'hui, c'est sur base de concours, c'est-à-dire sur base de mérite. C'est la méritocratie. Deuxième chose, ces jeunes gens-là, prenons le cas de ceux qui ont été formés, qui sont formés à l'ENA, et ils reçoivent une formation qui leur permet effectivement d'intégrer directement l'administration et la booster de le haut, parce qu'en arrivant, il y a quelqu'un qui parlait des vieux qui connaissent les cosinistes, les jeunes qui viennent qui ne connaissent pas les cosinistes. Non, le gouvernement tient compte de tous ces aspects. Nous n'allons pas engager quelqu'un qui n'est pas capable de booster vers le haut notre administration. Et même les conditions salariales, parce que la question a été posée. C'est ça que le gouvernement a proposé, que par exemple les jeunes soient intégrés dans l'administration, mais avec un statut spécial. Et en proposant aussi un traitement plus ou moins spécial en fonction des moyens disponibles, ce qui leur permettra de cotiser. Si on les met dans les mêmes conditions, ils ne seront pas cotisés, bien entendu. Les aînés auront été des martyrs.
Dommage pour les aînés. Il y a trois auditeurs en ligne, mais rapidement, il y a tout à l'heure Félicien qui est intervenu en début d'émission. Il a posé la question de savoir si, au niveau du budget de l'État 2016, il y a une rubrique par rapport à la retraite. Est-ce que concrètement, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent s'attendre que demain, ils seront envoyés en retraite, et puis les moyens suivront, parce que vous l'avez dit, en dépit des moyens. Est-ce que cela a été décidé aujourd'hui?
Le budget est en train d'être examiné maintenant au niveau du Parlement, et les parlementaires, les honorables députés sont les représentants du peuple. Certainement qu'ils vont tenir compte de cet aspect. C'est une urgence. Nous devons avoir de l'argent pour la mise à la retraite.
La question de la fonction publique, vous avez dit, ce sont les mêmes personnes qui pilotent les systèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, faudrait-il que le ministère de la fonction publique recours à des cabinets externes des experts qui peuvent piloter les processus, par exemple, d'audit, des savoirs, on est à combien, pour qu'on ne tombe pas dans le même cercle vicieux des mêmes personnes qui sont chargées eux-mêmes de réformer ce qu'eux-mêmes ont déjà détruit? Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui la possibilité de recourir à une expertise extérieure?
Ben là, vous enfoncez une porte ouverte, ça se fait déjà. En tout cas, au niveau de la fonction publique, le recours à des expertises privées se fait déjà. Mais attention, lorsque on doit recourir à l'expertise privée, nous ne devons pas ignorer l'expertise interne. Même si nous parlons de l'administration publique qui n'arrive plus à répondre aux attentes des usagers, il y a encore là-dedans des ressources humaines qui doivent être utilisées. C'est ce que nous faisons en tout cas.
Merci. Nous avons Bintou qui est à Kinshasa dans le Congo central. Franck, qui nous appelle souvent de Vienne, mais Laetitia à Kinshasa. Et Léonard est à Dungo, 081-890-6315.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capital propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapital.net.
Parole aux auditeurs.
Bintou, vous êtes à Kinshasa dans le Congo central, bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Bon, j'avais des petites questions à poser, quelques petites questions à poser à monsieur le ministre.
Allez-y.
Quand il dit que l'administration n'est pas politisée, moi je doute fort. Les constats sur le terrain démontrent que l'administration est totalement politisée. À deux des années 90, l'administration congolaise, l'exemple de Kinshasa, nous a dit ça, quand vous allez là-bas, on vous parlait en lingala en français. Mais aujourd'hui, pour être bien accueilli, il faut parler le swahili.
Ah bon?
Oui, dans l'administration congolaise. Quand vous parlez le swahili, vous êtes bien reçu. Tandis que lorsque vous parlez le lingala ou le kikongo, vous n'êtes pas bien reçu. Ok? Tandis que je pense qu'un jour ça sera aussi en Chiluba, un jour ça sera en Kikongo. L'administration ne doit pas être politisée. C'est la première solution qu'il faut. Il faut recruter selon des critères normaux. Mm-hmm. Ok?
Oui.
Alors, ça c'est le premier problème. L'absence des salaires. Monsieur le ministre sait bien que tout ce qu'ils sont en train de faire, donc pour développer un pays, il faut commencer par l'individu. Alors, comment vous demandez à quelqu'un de travailler toute sa vie? Moi, je suis le fils d'un fonctionnaire. Lorsque mon père est décédé, il a manqué même un cercueil. Il a fallu que moi, qui travaille dans le privé, pour chercher comment l'enterrer. Alors, il touchait combien par mois? Jusqu'à la fin de sa vie. Et on a tout, jusqu'à la fin de sa vie, il a eu combien? Qu'est-ce qu'il a construit qu'est-ce qu'il a eu comme investissement? Il a travaillé pendant plus de 30 ans dans l'administration congolaise. Ok, donc les unités que les ministres qui sont sur le plateau, mais s'ils sont portables, ça ne représente pas les salaires des mois des fonctionnaires de l'État. Ils doivent corriger cela. Quand le ministre dit que 40% du budget congolais va dans la fonction publique, et on peut payer les fonctionnaires de l'État. Mais quels sont ces fonctionnaires-là qu'on paye? Si vous prenez le budget congolais, c'est 8 milliards de dollars. C'est qui fait environ 3 milliards de dollars qu'on doit payer aux fonctionnaires de l'État. Donc, les fonctionnaires, là, c'est y compris l'exécutif. Si les 3 milliards, l'exécutif prend 80% ou 20% aux petits fonctionnaires, ça va représenter quoi? Des 3. Combien de fois ils vont recenser les fonctionnaires de l'État? On a parlé de recensement depuis 2002. Nous avons vu les pays africains venir depuis 2002 pour recenser les fonctionnaires de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé. Ils continuent à réformer. Ils réforment les hommes ou les textes. Et quel homme on est en train de réformer?
Ça fait déjà 4 questions et là, on a que 11 minutes pour terminer. Oui, allez-y rapidement, il y a qu'on veut sur ma ligne.
Monsieur le ministre, il y a des problèmes de coulage de recettes. Quelle est la part des responsabilités de l'exécutif dans le coulage des recettes? Et pour terminer, depuis la bancarisation jusqu'aujourd'hui, combien d'argent a été récupéré et combien est-ce qu'on en a fait?
Voilà, merci beaucoup, Bill, tout à fait, cette question. Mais je crois que la question sur la correction des salaires, le ministre a déjà répondu. Vous avez évoqué la politisation de l'administration. Vous estimez que le 40% du budget, ça ne revient pas tous aux fonctionnaires. L'exécutif en prend 80%. Le recensement a commencé depuis 2002 jusqu'à quand on va continuer à recenser. Le problème de recette de la part de l'exécutif. Merci beaucoup, le ministre, pour ramasser toutes ces préoccupations rapidement. Franck, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à son excellence au studio. Bonjour à tous les amis qui se sont déjà prononcés.
On vous écoute, Franck, rapidement.
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi les objections présentées par notre excellence qui est avec vos studios, que nous partageons partiellement. Il a bien dit, quand il n'y a pas d'administration stable dans un pays, rien ne peut marcher parce que l'administration d'un État, si elle fonctionne convenablement, c'est le poumon même du développement et de tout. Mais par rapport à ce qu'il a dit, moi je n'ai rien à lui apprendre, je ne peux seulement que lui faire quelques rappels. Son Excellence, quand il y a des problèmes de dysfonctionnement qui se posent dans des services étatiques, on a plus besoin de solutions proportionnelles par rapport à ces problèmes qui se posent. Mais seulement chez nous, on se rend compte qu'au lieu de trouver des solutions proportionnelles par rapport aux problèmes qui se posent, nous nous cachons derrière des terminologies techniques, derrière des concepts, derrière des mots. Et parfois, on revient sur les mêmes mots, sur les mêmes thématiques d'émission en émission, sans qu'on trouve des solutions vraiment pratiques. Et c'est bien vrai, quand quelqu'un a travaillé pendant autant d'années, pendant autant de décennies, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait réel qu'il parte en retraite. La retraite dans d'autres pays, c'est un moment d'honneur parce que pour avoir travaillé, pour avoir servi son pays pendant autant d'années, on va en retraite de manière honorable. Mais seulement chez nous, il y a un danger, on risque de confondre retraite et débarras. Ton Excellence, mais il y a parfois des manques de subventions dans certains régimes de la fonction publique. Est-ce que c'est vraiment la faute de ces agents? Et pour notre pays, le plus grand problème, c'est aux hommes, aux responsables. Vous avez évoqué des gens qui vont s'amener avec des pléthores de leurs frères, mais il faut les sanctionner. Mais quand on va de retraite en retraite, au lieu de remettre de l'ordre, on ne fait qu'encore ajouter des problèmes. Vous ne voyez pas qu'on est en train de faire des choses là.
Merci beaucoup.
Vous avez parlé du budget, c'est mieux de nous dire. Combien de pourcentages a-t-on prévu dans ce budget de 2016 pour la fonction publique?
La fonction
parce que c'est ce qui doit valer, ils doivent être honorés, ils doivent être payés.
Merci,
est-ce
merci.
On a déjà pensé à ça ou on pense seulement à se débarrasser de eux.
Merci beaucoup, Franck. On ne sera pas plus loin. Il y a deux derniers auditeurs en ligne. On va les écouter rapidement pour revenir à notre invité pour répondre et conclure. Léonard, vous êtes à Dungu, dans l'ancienne province orientale de Mambré, Dungu. Merci, Léonard, de vous être joint à nous. Bonjour, Léonard.
Ok, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Léonard.
Ok, ma question était celle-ci. J'ai voulu poser la question concernant donc la mécanisation qui s'est datée depuis 2005. Et on a eu des numéros de mécanisation et jusqu'à là, donc, aucune réaction pour donc, le PMA et le gouvernement. Le ministre de la fonction publique nous promet toujours, donc, attendez tel mois, mais jusqu'à là, on ne reçoit rien. Donc, je ne sais pas si réellement, donc, le gouvernement congolais va réagir avant qu'on aille donc, aux élections.
Merci beaucoup. Léonard, vous êtes à Dungu, on va revenir ici à Kinshasa pour terminer avec l'honorable John et Tinanzabo. Merci de nous avoir appelé. Vous avez suivi les uns et les autres, vous avez cette occasion de pouvoir mettre un point de vue hein, après sur l'ensemble des auditeurs qui se sont exprimés avant que Monsieur le ministre ne puisse répondre et conclure. On vous écoute, honorable.
Oui, bonjour, Roger, bonjour à tous les auditeurs de Radio Campus. Je voudrais dire ceci à ce stade au ministre, après avoir suivi tous les intervenants. Vous savez, sans l'administration, notre pays ne va jamais avancer. Et il est vrai, il y a un besoin pour rajeunir notre administration, parce qu'elle a vieilli. Mais il se pose un problème. Hier, les Chinois disent que le poisson pourrit par la tête.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la tête, c'est lui, la tête, c'est moi, député. La tête, c'est le membre du gouvernement. La tête, ce sont les gens qui dirigent le pays au sommet. Tenez, quand nous recevons les budgets au Parlement et que nous les votons, mais lorsqu'il n'y a pas de suivi en termes d'exécution, parce qu'un budget, c'est une loi. Dernièrement, nous avons eu le rapport de la reddition des comptes du gouvernement. Le gouvernement était complètement à côté du budget que nous avions voté. On va condamner qui? Aujourd'hui, le ministre parle de la réforme de l'administration et il faut un moyen. Lorsque nous, au niveau du Parlement, nous leur donnons un crédit, une ligne budgétaire qui ne respecte pas, nous allons condamner le peuple.
Oui, mais honorable, mais ça, c'est votre responsabilité. On n'a jamais vu en fait le gouvernement puni, je ne sais pas quel terme, utilisé par l'Assemblée nationale.
C'est
on n'a pas écouté les budgets de manière qu'il faut.
C'est là où j'ai dit l'impunité. Voilà. Fera en sorte que rien ne va avancer.
Merci.
Le ministre sait très bien que ça fait combien d'années qu'on fait le recensement. Mais quel est le résultat?
Je crois bien, honorable John Tinanzabo, ce sont les auditeurs, allez vous poser la question de savoir, nous vous avons élu, on se rend compte que les choses ne marchent pas, et chaque fois on se rend compte que le gouvernement n'exécute pas les budgets, ils sont à côté, et nous, on allait vous demander, vous, c'est que vous faites pour nous qui vous avons élus quand le gouvernement n'exécute pas les budgets et puis le gouvernement est toujours là. Merci beaucoup, merci aux uns aux autres. Mais un jour, on vous prendra comme invité pour que vous puissiez nous dire exactement ce que l'Assemblée nationale fait quand on se rend compte que l'exécutif ne marche pas selon les lignes qui ont été adoptées. On revient à vous, Excellence, Monsieur le Ministre. Vous avez suivi les uns et les autres un peu de réponses, mais aussi pour conclure, est-ce qu'on peut avoir une note d'espoir dans les possibles réponses?
Ben oui, il faut espérer, sinon si un peuple n'a plus d'espoir, il est voué à la disparition. Nous devons espérer, et la réforme, c'est la voie obligée. Je voudrais, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, dire par exemple à mon compatriote Bintou que, ben écoutez, il dit que l'administration est politisée. Oui, considérons que l'administration a été politisée. Et la réforme est venue effectivement pour dépolitiser l'administration, parce que tous les critères de recrutement ne permettront pas cette politisation. Nous voulons le développement de l'homme au centre, au cœur. Vous voyez ce que je veux dire. Même lorsqu'il dit dans le 40% du budget,
et l'exécutif, consomme autant, oui.
Mais écoutez, c'est tout ça que nous voulons réformer effectivement. Alors lorsque on parle par exemple, de la question que l'honorable vient de soulever, il a raison. nous devons avoir les moyens à tout prix. Je vais dire, s'il faut que je résume, la réforme, ça, c'est la vision du chef de l'État. En fait, le père de la réforme, c'est le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il faut à tout prix que nous devenions émergents. Au moins, tout le monde sait que nous devons, pour devenir émergents, nous devons avoir une administration efficace, une administration d'excellence. Tout ce que nous faisons maintenant, ça prend beaucoup de temps, ça c'est vrai, mais c'est pour nous amener à cette administration-là. Je prends juste un exemple. Il faut les textes, vous voyez, parce qu'il faut les textes pour changer. Il faut un cadre juridique qui permette de revoir la situation actuelle. Par exemple, l'âge de la retraite. Vous voyez, il faut passer de 55 à 65 ans. Il faut à tout prix que le concours soit le mode de recrutement. Il faut à tout prix créer la caisse de la retraite. Et nous y sommes. Il faut espérer. On ne peut pas en sortir autrement. En tout cas, nous sommes face à un cercle vicieux. Et l'unique moyen, c'est que tout le monde accepte d'aller vers la réforme. Ça doit faire mal. Ça doit faire des casses. Ça, c'est sûr. Mais il le faut, sinon, demain, nous serons aussi condamnés comme nous condamnons ceux qui nous ont précédés.
Merci beaucoup. C'est pas aussi la dernière émission. Le processus demande vraiment qu'on en parle, qu'on sensibilise encore davantage. Beaucoup de questions, toutes les questions n'ont pas été, bien sûr, traitées dans cette émission. Nous vous disons merci. Nous rappelons à nos auditeurs que nous avions reçu là, M. Pascal Issoumbicho, ministre de la fonction publique. Merci pour votre sympathique attention.
Allô? 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 Tu ne réponds pas?
Nous disons merci à toute l'équipe qui nous aide à produire ce magazine. Gir Lungembo était à la coordination. Julie Fezabongonda au standard et à la réalisation. Jédeni Nangasa à la mise en onde des Pierrot et la Miju. Vous la présentez sous la supervision de Martin Sebujango. On se retrouve le lundi à 11h, soit de l'histoire de Kinshasa pour un nouveau numéro des paroles aux éditeurs. Pour le moment, nous vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.